Bonjour à tous. Véronique Ovaldé de Sang-Froid, auteure d'une dizaine de romans pour grands, dont Et mon cœur, Transparent, prix France Culture Télérama il y a 10 ans, ou encore de Ce que je sais, de Vera Candida, et aussi d'une dizaine de livres pour enfants. Elle publie aujourd'hui son 10e roman, Personne n'a peur des gens qui sourient, chez Flammarion, ou l'histoire d'un départ, sans préavis, de la fuite d'une mère de famille avec ses filles. Elle sera avec nous pour en parler jusqu'à 12h30, puis restera pour nous parler d'une autre, d'Elena Ferrante. La tétralogie de l'auteure italienne, L'Amie prodigieuse, est un des grands succès littéraires et éditoriaux de ces dernières années, avec ses 10 millions d'exemplaires au moins vendus dans le monde. Alors retour dans la deuxième partie de la Grande Table, sur la fabrique d'une œuvre et sur la fabrique aussi d'un succès, à travers les mots de l'auteur, dans un livre qui vient de paraître chez Gallimard, Frantumalia. Ce sont ses correspondances, nous en parlerons aussi avec Jean-Noël Chiffano.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Il suffit d'un sourire pour qu'on te croie neutralisé. Hier, quand je suis allée à vélo jusqu'au bled pour faire les courses, je n'ai pas souri une seule fois, ça a mis tout le monde mal à l'aise. Tu devrais d'ailleurs essayer plutôt que de sourire au monde entier comme une désespérée. Et c'est passionnant. Véronique Ovaldé, bonjour.
Bonjour.
Si vous souriez, ça veut dire que peut-être je vous aurais neutralisé. Des gens qui sourient, des enfants qui ont l'air sages, pourquoi est-ce qu'il faut toujours, mais toujours, se méfier des apparences ?
Oh oui, je crois que c'est vraiment ça qui est important, c'est de se méfier des apparences, mais on le sait tous et on l'oublie assez souvent, et c'est ce que dit la jeune fille Stella dont vous parliez à l'instant, qui dit ça à sa mère, qui lui reproche de sourire comme une désespérée. Mais évidemment sa mère ne lui répond pas tout de suite, parce que Stella est une adolescente rebelle et bougonne, et que parfois il faut les laisser faire leurs expériences, mais finalement Gloria se dit et pense qu'il va falloir qu'un jour ou l'autre elle explique à sa fille que sourire c'est très utile, parce que ça nous donne l'air débonnaire.
Qu'est-ce qu'elle cache souvent, les apparences ?
Elle cache Gloria, si elle cache.
Non, les apparences.
Qu'est-ce qu'elle cache, les apparences ? Elle cache justement des choses qu'on n'a absolument pas envie de dévoiler. Et c'est très pratique, on le fait tous, de se masquer. À partir du moment où on sort à l'extérieur, on a des relations avec d'autres, c'est évident que il est plus confortable d'endosser finalement un déguisement. Mais c'est pas nécessairement être inauthentique, c'est pas quelque chose qui est contradictoire avec la vérité ou ce qu'on est profondément. Mais il est toujours très intéressant cette distorsion qui existe entre ce qu'on donne à voir et ce qu'on est. En tout cas, moi, je trouve ça absolument passionnant.
Dans une époque qui plaide la transparence,
oui,
partout,
voilà,
est-ce qu'il faudrait faire tomber les masques, ou au contraire, il ne faut pas tout dire, pas tout montrer ?
Moi, je suis persuadée qu'il ne faut pas tout dire et pas tout montrer.
En quoi c'est essentiel de préserver une part à soi ?
On le sait dans tout un tas de situations. Mais en plus, je crois que c'est vraiment un miroir aux alouettes, croire qu'on peut être totalement transparent. Et on le sait, que ce soit dans notre vie intime, dans un couple, ou quand on est un enfant par rapport à ses propres parents, quand on le sait dans notre vie professionnelle. Je pense qu'il est important de garder des espaces un peu plus privés et plus ténébreux.
Qu'est-ce qu'elle fuit ici dans ce roman « Personne n'a peur des gens qui sourient », votre héroïne ? Est-ce qu'elle fuit ses propres fantômes, Véronique Ovaldé, ou est-ce qu'elle fuit les hommes aussi ? Des hommes qui l'ont beaucoup entourée, beaucoup protégée, mais auxquels elle a du mal à accorder sa confiance ?
Je pense qu'elle fuit un peu tout ça, en effet, Olivia. Je pense qu'elle fuit les fantômes du passé. C'est difficile pour chacun de nous de cesser de vivre avec un rétroviseur, finalement. On est souvent en train de regarder ce qui s'est passé avant, et puis si on a plutôt éprouvé la dureté du monde plutôt que sa solidarité, on a une tendance quand même à devenir méfiant. Et c'est quelqu'un qui se méfie aussi des hommes en particulier, malgré le fait qu'ils ont été plutôt eux des gens assez bienveillants avec elle. Enfin, s'il y en a eu, c'était bien eux qui ont été bienveillants. Mais elle est pleine de doutes, et cette méfiance se transforme peu à peu en défiance.
Et vous, quand vous regardez dans votre rétroviseur, Véronique Ovaldé, dans votre propre rétroviseur, vous voyez plutôt des fantômes ou des visages souriants ?
Oh, et je vois les deux, c'est ça qui est normal. Je pense qu'il y a quelques visages souriants, et heureusement qu'ils ont été là, mais il y a aussi évidemment des fantômes, des spectres, parce que j'établis la différence dans les livres entre les fantômes et les spectres. Les spectres, en fait, les fantômes travaillent pour leur compte et les spectres sont un petit peu comme les choses ennuyeuses, les amis imaginaires qui nous consolent de l'ennui quand on est enfant. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de fantômes dans ma vie et dans ma vie passée. Mais je pense aussi que c'est que la littérature aide énormément à se positionner par rapport à ces fantômes, à nous sauver de ces fantômes qui ne sont pas toujours très très bons pour nous. J'aime bien cette idée, en fait, que la littérature nous sauve.
Elle vous sauve et elle permet aussi peut-être d'appréhender, de domestiquer des émotions qu'on avait du mal à juger jusqu'ici. La méfiance, la peur, la paranoïa, et vous avez raconté avoir grandi, vous, avec cette défiance dans un environnement qui était un peu asphyxiant, étouffant, oui, dans votre famille. De soyez imprudents, les enfants, à personne n'a peur des gens qui sourient. On voit que vous tentez de la corseter, cette méfiance dans la fiction. Est-ce qu'à travers ça, vous avez aussi appris à la maîtriser ?
Oui, je pense qu'en fait, je la maîtrise pas tout le temps, mais je la maîtrise généralement, on va dire. Et ce qui est intéressant dans le fait d'écrire, c'est une façon évidemment de sublimer toutes ces choses-là, et c'est un effort de justesse. Vous voyez, on essaie de tendre vers la justesse et la précision de toutes ces de tout ce qui s'est passé en nous et de toute notre expérience. On essaie d'échapper à une stylisation de nos expériences. Il faut absolument embrasser toute la complexité de l'expérience de l'enfance. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui a été l'un des moteurs de mon choix de devenir écrivain.
Alors elles partent ensemble, ouais. Mère, Gloria et ses filles. Elles remontent vers le nord, la végétation se transforme, elle se densifie et verdit. Mais elle est plus triste et terne aussi. C'est sans doute à cause de la lumière qui change quand on s'éloigne de la mer et de l'Afrique. Gloria se demande si elles vont tenir dans cette opacité. Elle se souvient de la maison de Kaiserheim où elle va les installer et où elle passait toutes ses vacances. Et il lui semble effectivement que la maison est très sombre, presque ténébreuse, mais que cette sensation est peut-être due à la forêt qui l'encercle. Il y a une jouissance aussi dans la fuite, vous ne trouvez pas ?
Bah oui, bien sûr. Alors, on a tous eu quand même ce fantasme, au moins une fois dans notre existence, de fuir, de tout laisser en plan et de recommencer. Et de, voilà, le fantasme de la deuxième vie, c'est assez génial. Donc là, en fait, elle le vit parce que elle se sent menacée et elle sent ses propres enfants menacés. Donc, il y a évidemment dans cette fuite quelque chose d'inquiétant. Mais on n'échappe pas quand même à cette satisfaction de retenter quelque chose, en fait, de nouveau.
De reconstruire.
Et même si elle va dans cette maison qui est donc ténébreuse, et donc qui correspond évidemment à ses souvenirs et à cette enfance un peu triste, un peu mélancolique qu'elle a pu vivre, je pense en effet que malgré ça, c'est une façon quand même de se réconcilier.
Une femme en cavale poursuivie par la mafia new-yorkaise. Alors là, on a changé de géographie. Elle est l'héroïne du Très Noir Gloria de John Cassavetes, sorti en 1980. C'est Gina Rowlands qui revient sur l'histoire de cinéma qu'elle a partagée avec l'amour de sa vie, mort en 89, et sur le regard qu'il posait sur les femmes, et notamment dans ce film culte Gloria.
Well, I am not me. I used to be me. I'm not me anymore.
What the hell do you want from me? You want me to get down on my knees? What the hell do you want?
Everything you can't give me. I want youth.
I think that one of the things about his work is that his women, he was one of the first men that I ever knew who did not regard women as all being alike.
C'est un des premiers hommes à voir les femmes, qu'elles ne soient pas toutes pareilles. En fait, chaque femme était différente et il tenait beaucoup de latitude aux femmes.
Yes, even in his first movies, the faces.
Même dans ses premiers films, le visage des femmes, Faces, qui est le titre de son film.
To Woman, to Gloria, to Opening Night, they're also very different.
Gloria, Opening Night, etc. Enfin, dans tous ses films, il porte un regard différent sur les femmes.
John really was very loved by very many people, and rightly so.
Oui, John Cassavetes était vraiment aimé par tout le monde, sur le plateau et ailleurs.
la mort aux trousses dans Gloria. Elle fuit avec l'enfant pour le protéger. Si votre Gloria, elle tient un peu aussi de celle de Cazavet, Véronique Ovalde, ses méthodes à elle pour protéger les siens sont quand même un tout petit peu extrêmes. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle s'enferme dans cette bulle de violence? Pourquoi est-ce qu'elle retourne sa tempête intérieure contre les autres?
Alors pourquoi? Je ne sais pas s'il y a vraiment une raison à ça, mais ce qui est intéressant d'ailleurs dans la Gloria de Cassavetes, tout comme dans cette Gloria que j'ai fabriquée, j'allais dire, que
et dont j'ai vous inventée, vous êtes inspirée de celle
en fait,
de Cassavetes.
Oui, au début, je n'y ai pas pensé, mais évidemment, ce prénom qui est survenu, enfin, je me suis dit, mais évidemment, après coup, elle s'appelle Gloria à cause de Cassavetes. Du coup, d'ailleurs, quand j'explique que son père, contrairement à l'indication de sa femme, l'a appelée Gloria au lieu de l'appeler Antoinette, qui était le nom de l'affreuse grand-mère, mais personne n'a envie d'appeler sa fille comme une affreuse personne. Et il l'appelle Gloria. Au début, j'avais écrit que c'était à cause de Cassavetes. Et après, je me suis dit que ça ne collait pas bien avec ce personnage, même si on a des incohérences. Mais la vraisemblance était importante. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il l'avait appelée à cause de Van Morrison, de la chanson de Van Morrison. Mais je crois que profondément, c'est cette Gloria de Cassavetes qui était présente pour moi, cette femme qui est quand même une femme assez radicale et pas archétypale. C'est-à-dire qu'en effet, au début du film, elle est vraiment de mauvaise composition, on va dire. Et ma Gloria, en fait, elle est très différente là-dessus parce que c'est plutôt l'inverse. C'est qu'au départ, on a plutôt tendance à être, je dirais, de son côté, c'est une victime parfaite, puisqu'on a bien compris qu'elle était menacée, poursuivie par un homme. En tout cas, c'est ce qui est établi dès le départ, et que c'est peu à peu qu'on comprend sa colère. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait passionnant quand on écrit un roman, on met tellement de temps à écrire un roman, tellement d'heures, tellement de milliers d'heures, que, en fait, peu à peu, le personnage s'incarne et prend sa véracité, en fait.
Elle prend sa véracité et vous alternez pour la raconter entre le passé et le présent de Gloria, d'un chapitre à l'autre. On remonte le fil aussi de son histoire. Elle est en fuite, elle est en cavale, elle court, elle avance. À quel moment reprend-elle son souffle pour vous? Et à quel moment vous avez repris votre souffle dans l'écriture de ce thriller?
Je pense qu'elle reprend son souffle justement dans avec ce recours à la forêt, cette maison ténébreuse, hein, ombreuse, cette maison du souvenir de l'enfance. Elle pense qu'elle peut en effet reprendre son souffle avec ses deux filles. Elle pense qu'elle peut les isoler, elle pense qu'elle peut se cacher. Donc je pense que ça, c'était quelque chose de fondamental dans sa fuite. Il fallait quand même un moment de repos. Il faut pouvoir se poser un tout petit peu. Et là, ce qu'elle veut et ce qu'elle cherche, mais c'est, je pense, totalement désespéré, puisqu'en fait, on ne peut pas échapper au monde. Et donc, ce qu'elle cherche, c'est protéger, c'est le genre de personne à être prête toujours à subir un siège. C'est quelqu'un qui peut, qui vraiment est prêt en permanence à ce que quelque chose de terrible puisse arriver. Et donc c'est pour ça que parfois cette méfiance, cette défiance dont je parlais, se transforme aussi dans une relation vraiment très conflictuelle au monde, en paranoïa en fait, tout simplement.
Et défiance qu'elle va transmettre à ses filles, incontournablement d'une certaine manière.
Ici, oui, je crois que c'est très contagieux, ouais, en fait.
C'est ça, ouais. Ce sont des hommes, les hommes dont elle se méfie aussi. L'avocat, ami de son père, l'oncle qui l'a élevé, le tonton Gio, Samuel, l'homme de sa vie, elle les aime et en même temps, elle s'en méfie tout au long de ce roman. Est-ce qu'on est toutes, pour vous, élevées comme ça, Véronique Ovalde? Et à tort ou à raison d'ailleurs. Dans un moment où on parle beaucoup des relations entre les hommes et les femmes, est-ce que c'est ce que vous inculqueriez, peut-être même malgré vous, aussi à vos filles?
Alors j'essaye de ne pas inculquer ça à mes filles, mais parce que je pense que c'est extrêmement difficile d'échapper à cette méfiance qu'on nous inculque très très, qu'on nous inocule en quelque sorte quand on est très jeune, très enfant, et particulièrement quand on est une petite fille où on passe où les adultes, vos parents passent leur temps à vous dire, d'ailleurs votre mère et votre père vous passent leur temps à vous dire fais attention, apprends à courir vite. Les hommes sont dangereux. Fais attention aux hommes, fais attention aux garçons. On ne dit pas ça aux garçons. On leur dit pas c'est beaucoup plus rare de leur dire fais attention aux filles. Donc vous êtes continuellement dans une posture de proie possible. C'est très problème, c'est que après ça devient comme une sorte de fil à plomb dans votre existence. Il faut pouvoir lutter contre ça. Donc moi j'essaye en effet de ne pas dire à mes filles de se méfier en permanence des hommes et des garçons. Même si je pense que il faut que l'autre chose que je leur apprends de façon très très forte, c'est que toutes les victoires qu'on a pu obtenir sur la fin de la subordination des femmes par rapport aux hommes et la domination masculine qui s'étiole un petit peu dans nos pays occidentaux, eh bien que tout ça, ce sont des victoires extrêmement friables, hein, ce sont des victoires, des conquêtes très profondes. Donc il faut faire attention à ça, mais pas faut faire attention aux hommes.
Vous avez écrit, vous, pour grandir, écrit aussi pour vous libérer de ces peurs, de cette méfiance qu'on évoquait. Est-ce que vous écrivez aussi pour vous libérer, pour vous émanciper? Et on en reparlera à travers l'œuvre de Elena Ferrante, puisque vous restez avec nous pour en parler tout à l'heure. Est-ce que pour vous, l'écriture, elle a aussi eu une fonction émancipatrice?
Oui, bien sûr. Mais tout comme la lecture aussi a une fonction émancipatrice. Je ne sais plus dans quel livre je disais que la lecture, en fait, les livres, généralement, donc que ce soit les livres qu'on écrit ou ceux qu'on lit, nous sauvent des familles asphyxiantes. Et les familles, c'est pas simplement évidemment la cellule, et ça c'est intéressant, toujours ce mot cellule, la cellule familiale, c'est aussi tous ceux qui vous entourent et qui souhaiteraient prendre soin de vous et qui sont parfois extrêmement intoxicants. Et donc je suis convaincue qu'en effet, moi, ça a été la manière que j'ai trouvée, parce que la manière que j'ai trouvée de m'affranchir parce que l'écriture permettait une réflexion. Et puis, j'ai toujours été convaincue qu'une bonne histoire recélait une grande part de vérité. Et puis, il y avait le fait que quand j'étais enfant, je faisais partie de ces enfants tristes, comme dont je parlais dans le livre, mais qui étaient encombrés, en fait, par un imaginaire, encombrés par tout un tas de personnages, de personnes à l'intérieur de moi. Donc, c'est ouvrir la voie, et la voie VOX aussi, hein, à tous ces personnages m'a permis d'y voir plus clair et de m'émanciper, ouais, ça y a aucun doute là-dessus.
À propos de ce drôle de métier que vous faites aujourd'hui, vous dites quoi, vous, écrivain, écrivaine, auteur, auteure, autrice?
Alors, en fait, j'aime assez autrice parce que quand vous allez en Italie, qui n'est, comme on le dira, on verra tout à l'heure avec Elena Ferrante, qui n'est pas donc le pays le plus progressiste, hein, concernant la condition des femmes. L'autre fois, j'étais en Italie et ils étaient étonnés, ils m'interviewaient, les journalistes, et ils étaient étonnés qu'en effet, en français, il n'y avait pas de féminin. Alors qu'il y a autrice, et en fait, en français, il n'y a pas de féminin à auteur, et auteureux, le fait que c'est terrible, on est toujours obligé de rajouter ce « e » à la fin, de façon sonore. Donc, ça devient très très laid, et c'est un peu appuyé. Donc, moi, j'aime assez autrice, je trouve jolie et normale, enfin, disons logique. Et c'est vrai que c'est agaçant, tous ces mots masculins qui n'ont pas de féminin. J'ai remarqué récemment que beaucoup de mots masculins, quand ils deviennent féminins, représentent un objet. Par exemple, un chevalier qui devient une chevalière. Et c'est amusant, je trouve, et même un cuisinier qui devient une cuisinière, qui est en général comme une gazinière. Donc je trouve que c'était amusant, en fait. C'est tous ces mots qui ont du mal à passer la féminisation en restant humain.
La chevalière qui se met le plus souvent quand même aux doigts des hommes aussi.
Oui, en plus.
Joanne Sfar, ensemble vous avez co-signé À cause de la vie, qui est paru aux éditions LU à l'automne dernier. On a entendu son engagement pour les auteurs dans la foulée de Paye ton auteur, ce mouvement et ce hashtag lancé sur les réseaux. Alors ce statut, il est très spécifique, on commence à le comprendre. Est-ce que vous gagnez d'ailleurs votre vie avec vos livres?
Est-ce que je gagne ma vie avec mes livres? Oui, je pense que je gagne ma vie avec mes livres.
C'est un métier à part entière où il faut multiplier à côté pour pouvoir vivre.
Ce qui se passe, c'est que actuellement, on peut considérer que je gagne ma vie avec mes livres, mais j'ai toujours continué à travailler. J'ai toujours travaillé. Ça fait 27 ans que je travaille dans l'édition. D'ailleurs, j'ai fait de multiples métiers dans l'édition. Mais ça me semble important de continuer aussi à travailler pour garder déjà le lien avec l'entreprise. Ça m'intéresse beaucoup, les rapports de force dans les entreprises, dans les maisons d'édition, dans l'entreprise culturelle, et aussi parce que j'aurais peur de précariser en fait mes propres enfants. Je pense que moi-même je me débrouillerais toujours, mais j'ai 3 enfants et je ne me voyais pas à la fin du mois de leur dire maintenant écoutez, ça va être un peu plus compliqué le mois prochain. Mon choix de vie, le choix d'être écrivain n'allait pas, et le choix d'avoir eu des enfants n'allait pas être trop lourd, en fait, apporter pour eux. Donc, ça, j'ai conservé, je conserve un emploi, et ça me paraît, je dirais, plus sain, moins angoissant. Et aussi parce que je m'étais dit, sinon, il faut absolument publier régulièrement, et publier des textes qui vont être lus. Et ça, c'est une pression qu'on se met, qui n'est, je pense, pas très saine.
Et la précarité dans ce métier d'écrivain, elle se niche d'abord dans le statut des auteurs. Il y a aussi la fragilité dans l'acte de création, le processus d'écriture. On ne sait jamais si on va réussir à écrire un livre suivant, s'il va être édité, s'il sera lu, s'il se vendra. Donc il y a cette précarité qui se double d'une fragilité. Vous êtes aujourd'hui donc auteur, autrice et éditrice. Dans quelques jours, vous retrouverez une maison que vous connaissez déjà, c'est Albin Michel. Vous êtes passé par le Pôle Jeunesse. Vous quittez aujourd'hui Point pour revenir chez Albin en qualité d'éditrice de littérature française. Sur ce métier et ce statut d'écrivain, le sociologue professeur au Collège de France, Pierre-Michel Menger, nous disait deux choses. Que dans le monde des auteurs, 20% des gens raflent 80% des revenus, qu'il y a des inégalités qui sont en fait assez structurantes dans ce milieu et qu'il faudrait que l'État arrive pour compenser, pour lutter contre la précarité du statut. Mais il nous disait aussi que le métier d'auteur est extrêmement attractif aujourd'hui et que l'industrie a besoin d'une grande diversité de production pour être rentable et que ces facteurs provoquaient souvent une surproduction. Est-ce que vous, à la tête de cette collection ou dans une maison d'édition, comme éditrice, vous allez faire en sorte, essayer de ne pas surproduire, de ne pas trop produire, c'est-à-dire d'éditer moins et mieux?
Je pense que c'est fondamental, en fait. Je pense qu'il y a quelques petites choses comme ça très très importantes concernant le statut des auteurs. Je pense qu'il y a un partage de la valeur qui devrait être un peu plus équilibré entre les éditeurs aussi et les auteurs. Et je me permets de dire ça en étant, comme vous l'avez mentionné, en étant moi-même éditrice, mais ça ne m'empêche pas évidemment de regarder ça de façon très éclairée presque, puisque je suis à l'intérieur du système et j'ai un pas dehors, évidemment. C'est très très intéressant et c'est pas du tout inconfortable d'ailleurs. Et il y a donc l'importance du partage de la valeur et aussi bien sûr ce problème de la surproduction qui est vraiment extrêmement ennuyeux pour les auteurs en premier, parce que la première chose qu'on vous dit, c'est que si il n'y a plus de surproduction, alors on publiera plus vos livres. Mais je crois qu'en fait, c'est simplement c'est vraiment absurde de continuer à publier des livres, autant de livres, simplement pour être présente sur le marché du livre, et vous avez des auteurs qui vont vendre 3 ouvrages. Ça n'a aucun sens. Et en effet, vous le dites très justement, c'est très attractif. Tout le monde a envie d'avoir son livre, enfin, à partir du moment où on écrit. Et en France, nous sommes un peuple qui aime écrire, où il y a beaucoup de gens qui aspirent à être écrivains, à être publiés. Je crois que ça, c'est quand même une tromperie.
Vous restez avec nous, Véronique Ovaldé. Francfort, c'est la capitale du livre en Allemagne. Pour le cinéma, c'est Berlin. Et on part à la Berlinale, midi 25 sur France Culture.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
La Berlinale, bonjour.
La Berlinale serait-elle cette année celle des femmes ou ne sont-elles une fois de plus qu'un atout chic pour les tapis rouges? Certainement pas. Jamais un festival international de films n'avait offert une telle représentation aux femmes.
Et le directeur du festival de Berlin, Dieter Koslik, dont c'est la dernière édition cette année, a signé le 9 février dernier la charte du collectif 50-50-20-20 pour plus d'égalité, enfin 2020 d'ailleurs, pour plus d'égalité et de transparence dans les comités de sélection. La Berlinale qui s'engage donc à retenir plus de femmes dans ses jurys, dans ses sélections de films, mais aussi au sein du personnel du festival.
On a visionné plus de 4000 films pour en discuter et faire la sélection. Mon travail, tel que je le vois, consiste à aider les réalisateurs qui ont une vision, une idée de l'avenir du cinéma, pour que leur voix soit entendue.
Nous avons environ 3900 journalistes à la Berlinale. La moitié vient du monde entier, l'autre moitié d'Allemagne et de Berlin.
Voilà, et cette 69e édition se termine ce week-end. On s'approche d'ailleurs dans la sélection peu à peu de la parité homme-femme avec en compétition 7 films sur 16 réalisés par des femmes. Ça, Michel Simon nous le disait déjà en ouverture de semaine. Rappelons que ces deux dernières années, ce sont des réalisatrices qui ont remporté l'Ours d'Or. La Hongroise Ildikó Egyedi en 2017 et la Roumaine Adina Pintilier en 2018. Alors Michel Simon, vous êtes avec nous. On a déjà évoqué cette question de l'égalité homme-femme dans dans la sélection. Vous, vous avez eu un gros coup de cœur pour le film d'Agnès Varda. Est-ce qu'une femme peut encore gagner la récompense suprême cette année à Berlin, même si Agnès Varda est hors compétition?
Ben justement, Agnès Varda aurait pu gagner l'Ours d'Or parce que c'est un film exceptionnel, mais on l'a mis hors compétition, ce qui est à mon avis très négatif pour les femmes, parce que quand on a un grand film de ce genre, eh bien on le met en compétition. C'est un film magnifique, d'une intelligence, d'une sensibilité, comme seule Agnès, enfin des rares à l'avoir autant qu'Agnès Varda, qui parle beaucoup du partage avec le public, elle s'intéresse au public, ce qui est une très bonne leçon pour les jeunes cinéastes. C'est une femme qui raconte sa vie et son œuvre avec un humour, une intelligence, une générosité exceptionnelle. Alors, c'est un très grand film qui a été magnifiquement reçu. Et avec le film d'Ozon, on peut dire que la France fait figure de participation exceptionnelle, puisque le film d'Ozon fait partie des favoris pour l'Ours d'Or. Il y a également un film réalisé par une femme que j'ai remarqué avec beaucoup, qui a beaucoup de talent, de Teona Mitetskra, qui est une Macédonienne, qui s'appelle Dieu existe, son nom et Petrunia. C'est l'histoire d'une jeune femme chômeuse qui est harcelée par sa mère, qui ne trouve pas de travail et qui un jour passe devant un lac où un crucifix tous les ans est lancé dans le lac par le prêtre, et ce sont des hommes qui doivent le récupérer. Or, c'est cette femme qui plonge et qui récupère cette croix, et elle devient la cible de tous les mâles de la région. C'est un très beau film qui n'est pas démonstratif, mais qui est en tout cas très bien joué et qui fera, à mon avis, qui sera au palmarès. Au palmarès, probablement aussi, deux films chinois. Tous les deux s'appellent Wang, de Wang Yao Shuai, So Long My Son, c'est-à-dire Adieu mon fils, un film de 3 heures, une fresque sur 30 ans de la vie chinoise, 3 décennies, et en même temps, la révolution culturelle, l'histoire d'un couple qui a perdu son fils noyé, qui en a adopté un deuxième qui les a quittés. Donc c'est une sorte de chronique à la fois familiale et une chronique sociale de grande qualité. Et un autre Wang Quanan, qui a déjà eu l'Ours d'Or pour Le mariage de Touya, un film qui se passe en Mongolie, et qui est l'histoire d'une femme trouvée assassinée et d'un policier aidé par une autre femme qui, dans les magnifiques espaces de la steppe mongole, essaye de trouver la vérité. Voilà, les
des
déceptions...
Films qui arriveront, ouais, les déceptions, vous ne nous en parlez pas. Ça, c'est votre palmarès, un peu?
C'est des films que j'ai aimés, mais aussi qui sont très appréciés par la presse. Il y a de mauvais films comme celui de Nadav Lapid, qui est une grosse déception, un film prétentieux visant visiblement la critique et les prix au festival, qui s'appelle Synonyme. Mais il est très coté, je dois le reconnaître, par la presse, de même qu'un film turc tout en carte postale, ce n'est pas Nuri Bilge Ceylan, Le Comte des Trois Sœurs. Ces films risquent aussi de se retrouver au palmarès. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer.
On aura le palmarès demain, juste un mot de cette édition, la couleur, vous diriez, c'était une bonne édition pour vous?
Une édition très moyenne, mais j'ai vu ce matin un magnifique film gospel, un documentaire sur Aretha Franklin, la grande chanteuse de gospel, qui s'appelle Amazing Grace, qui est un film superbe. Voilà.
Merci.
Et la sélection dans l'ensemble, disons, est intéressante, mais ce n'est pas une grande crue.
Alors, c'était la dernière édition de Dieter Kössling. On verra pour l'année prochaine. Merci beaucoup à vous, Michel Simon, d'avoir suivi pour nous cette 69e édition de La Berlinale. Véronique Ovaldé, vous restez avec nous pour la deuxième partie de la Grande Table.